Chapitre 18. L'intérieur de la Sicile. Le lendemain, quelques diligences que nous fîmes, nous ne parvînmes à nous mettre en route que vers les 9h du matin. Nous avions demandé d'abord une mule de renfort pour Cam. Mais lorsqu'il se vit pour la première fois de sa vie juché au haut d'une selle sans autre support que deux étriers d'inégale longueur, il déclara que la bride lui paraissait un point d'appui trop insuffisant pour qu'il lui confiât la conservation de sa personne. En conséquence, avec l'aide de Salvatore, il mit pied à terre et la mule fut renvoyée. Pendant ce temps, on chargeait toute notre robe sur la mule de transport. Comme ce bagage était assez considérable, Cam remarqua qu'il formait sur le dos de l'animal une surface plane de 3 ou 4 pieds de diamètre. Cette terrasse parut à Cam un véritable lieu de sûreté, comparé à l'extrémité aiguë de la selle, et il demanda à s'établir, comme il l'entendrait, sur cette petite plateforme. Salvatore, consulté pour savoir si sa mule pouvait porter ce surcroît de charge, répondit qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Au bout d'un instant, Cam se trouva donc placé au centre de notre robe, assis à la manière des tailleurs, et s'élevant pyramidalement au milieu de son domaine. On nous avait recommandé de visiter les Macalubi. Nous priâmes donc Salvatore de prendre le chemin qui y conduisait. Mais habitué à de pareilles demandes, il avait de lui-même prévenu notre désir. Et nous n'en étions plus déjà qu'à 1/2 mile lorsque nous lui dîmes de nous y conduire. Les Macalubi sont tout bonnement de petits volcans de vase, au nombre de 30 ou 40, qui s'élèvent sur une plaine boueuse. Chacun de ces volcans en miniature a un pied ou 18 pouces de haut. La matière qui s'échappe de ces topinières est une espèce d'eau pâteuse, couleur de rouille, très froide et, à ce que l'on assure, très salée. Lorsque nous les visitâmes, les volcanos se reposaient, c'est-à-dire qu'à grand-peine et avec des efforts qui devaient singulièrement les fatiguer, ils poussaient leur lave humide hors de leurs cratères. Salvatore nous assura qu'il y avait des époques où il jetait de la boue à 100 ou 150 pieds de hauteur, et où toute cette plaine de vase tremblait comme une mer. Nous ne vîmes rien de pareil. Elle était au contraire fort tranquille, comme nous l'avons dit, et assez sèche pour qu'en marchant dans les intervalles des volcans, on n'enfonçât que 2 ou 3 pouces. Comme la chose, malgré la recommandation, nous parut médiocrement curieuse, et que nous n'étions pas assez forts en géologie pour étudier la cause de ce phénomène, nous ne fîmes au Macalubi qu'une assez courte station, et nous continuâmes notre chemin. Vers les 11h, nous nous trouvâmes sur le bord d'un petit fleuve. Comme nous suivions un chemin à peine tracé, et praticable seulement pour les litières, les mulets et les piétons, il n'y avait pas, on le pense bien, d'autre moyen de traverser le fleuve que d'y pousser bravement nos mules. Ils y entrèrent jusqu'au ventre et nous conduisirent sans accident à l'autre bord. J'avais invité Salvatore à monter en croupe derrière moi, mais comme il faisait très chaud, il n'y fit point tant de façon. Il passa tranquillement à la manière de ses mulets, c'est-à-dire en se mettant dans l'eau jusqu'à la ceinture. À quelques pas au-delà du fleuve, nous trouvâmes une espèce de petit bosquet de lauriers roses qui ombrageait une fontaine. C'était une halte tout indiqué pour notre déjeuner. Nous sautâmes, en conséquence, à bas de nos mules. Cam se laissa glisser du haut de son bagage. Salvatore battit les buissons pour en chasser 2 ou 3 couleuvres et 12 de lézards, et nous déjeunâmes. Comme nous avions invité Salvatore à déjeuner avec nous, honneur qu'après quelques façons préliminaires il avait fini par accepter, il était devenu, vers la fin du repas, un peu plus communicatif qu'il ne l'avait été au moment de notre départ. Jadin profita de ce commencement de sociabilité pour lui demander la permission de faire son portrait. Salvatore y consentit en riant, drapa son manteau sur son épaule gauche, s'appuya sur le bâton pointu dont il se servait pour sauter par-dessus les ruisseaux et pour piquer les mules, croisa une de ses jambes sur l'autre et se tint devant lui avec l'immobilité et l'aplomb d'un homme habitué à accéder à de pareilles demandes. Pendant ce temps, je pris mon fusil et je battis les environs. Un malheureux lapin qui s'était aventuré hors de son terrier et qui eut l'imprudence de vouloir le regagner, au lieu de rester tranquillement à son gîte où je ne l'eusse pas découvert, fut le trophée de cette expédition. Ce fut une occasion pour Salvatore de nous demander la permission d'examiner nos fusils, ce qu'il n'avait point encore osé faire, malgré l'envie qu'il en avait. Il les prit et les retourna en homme à qui les armes sont familières. Mais comme c'étaient des fusils du système Le Faucheux, le mécanisme lui en était parfaitement inconnu. Je n'étais pas fâché, tout en ayant l'air de satisfaire à sa curiosité, de lui montrer qu'à une distance honnête, je ne manquais pas mon homme. Je fis donc jouer la bascule. Je changeai mes cartouches de plomb à lièvre pour des cartouches de plomb à perdrix. Et jetant deux piastres en l'air, je les touchai toutes les deux. Salvatore alla ramasser les piastres, reconnut sur elles la trace du plomb et secoua la tête de haut en bas, en digne appréciateur du coup que je venais de faire. Je lui proposai de tenter le même essai. Il me dit tout simplement qu'il n'avait jamais été grand tireur au vol, mais que si mon camarade voulait lui jeter sa carabine, il nous montrerait ce qu'il savait faire à coup posé. Comme elle était toute chargée à balles, Jadin la lui mit aussitôt entre les mains. Salvatore prit pour but une petite pierre blanche de la grosseur d'un œuf qui se trouvait à 100 pas de nous au milieu du chemin. Et, après l'avoir visée avec une station qui indiquait l'importance qu'il attachait à réussir, il lâcha le coup et brisa la pierre en 1000 morceaux. Cela nous fit faire, à Jadin et à moi, la réflexion médiocrement rassurante que, dans l'occasion, Salvatore non plus ne devait pas manquer son homme. Quant à Cam, il ne pensait à rien autre chose qu'à envelopper son lapin dans des herbes qu'il avait cueillies au bord de la fontaine, afin de le maintenir frais jusqu'à l'heure du dîner. Nous nous remîmes en route. Le misérable Fiumicello que nous venions de traverser faisait plus de tours et de détours que le fameux méandre. Nous le rencontrâmes 12 fois sur notre route en moins de 3 lieues. Chaque fois, nous le passâmes à gué, comme la première. Pendant toute cette route, nous n'apercevions aucune terre cultivée, mais des plaines immenses, couvertes de grandes herbes, brûlées par le soleil, au milieu desquelles s'élevait parfois, comme une île de verdure, une petite cabane entourée de cactus, de grenadiers et de lauriers roses. À 100 pas, tout autour de la cabane, le sol était défriché et l'on apercevait quelques légumes qui percevaient la terre et qui, selon toute probabilité, étaient la seule nourriture des malheureux perdus dans ces solitudes. Nous marchâmes jusqu'à 5 heures du soir, apercevant de temps en temps une espèce de village juché à la cime de quelques rochers, sans qu'on pût distinguer le moins du monde par quel chemin on y arrivait. Enfin, du haut d'une petite colline, Salvatore nous montra une ferme placée sur notre chemin et nous dit que c'était là que nous passerions la nuit. Une lieue à peu près au-delà de cette ferme et à droite de la route s'élevait sur le penchant d'une montagne une ville de quelque importance nommée Castronovo. Nous demandâmes à Salvatore pourquoi nous ne gagnions pas cette ville au lieu de nous arrêter dans une misérable auberge où nous ne trouverions rien. Salvatore se contenta de nous répondre que cela nous écarterait de trop de notre route. Comme une plus longue insistance de notre part eût pu faire croire à notre guide que nous nous défions de lui, ce qui eût été fort ridicule après notre choix volontaire, nous n'ajoutâmes point d'autres observations et nous résolûmes, puisque nous avions tant fait que de le prendre, de nous en remettre entièrement à lui. Seulement nous lui demandâmes, pour savoir au moins où nous allions passer la nuit, quel était le nom de cette baraque? Il nous répondit qu'elle s'appelait Fontana Fredda. C'était bien, du reste, le plus magnifique coupe-gorge que j'ai vu de ma vie, isolé dans un petit défilé, sans aucune muraille de clôture, et n'ayant pas une seule porte ou une seule fenêtre qui fermât. Quant à ceux qui l'habitaient, notre présence ne leur parut probablement pas un événement assez digne de curiosité pour qu'ils se dérangeassent. Car nous nous arrêtâmes à la porte, nous descendîmes de nos mules et nous entrâmes dans la première pièce sans voir personne. Ce ne fut qu'en ouvrant une porte latérale que j'aperçus une femme qui berçait son enfant sur ses genoux en chantonnant une chanson lente et monotone. Je lui adressai la parole, elle me répondit sans se déranger quelques mots d'un patois si étrange que je renonçai à l'instant même à lier conversation avec elle. Et que j'en revins à Salvatore, qui, faute de garçon d'écurie, déchargeait ses mules lui-même, le priant de s'occuper en personne de notre dîner et de notre coucher. Il me répondit en secouant la tête qu'il ne fallait pas trop compter ni sur l'un ni sur l'autre, mais qu'il ferait de son mieux. En rentrant dans la première pièce, je trouvai Cam désespéré. Il avait déjà fait sa visite, n'avait trouvé ni casserole, ni grill, ni broche. Je l'invitai à se procurer d'abord de quoi griller, bouillir ou rôtir. Nous verrions ensuite comment remplacer les ustensiles absents. Après avoir attaché ses mules au râtelier, Salvatore apparut à son tour et entra dans la chambre voisine. Mais un instant après, il en sortit en disant que le maître de la maison se trouvant assez coq et sa femme étant à moitié idiote, nous n'avions qu'à agir comme nous ferions dans une maison abandonnée. Les provisions se bornaient, nous dit-il, à une cruche d'huile rance et quelques châtaignes. Pour du pain, il n'en avait pas. Si ce langage n'était pas rassurant, il avait au moins le mérite d'être parfaitement clair. Chacun se mit donc en quête de son côté et s'occupa de rassembler ce qu'il put. Jadin, après une demi-heure de course dans les rochers, rapporta une espèce de colombe. Salvatore avait tordu le cou à une vieille poule. J'avais, dans un hangar bâti en retour de la maison, trouvé 3 œufs. Enfin, Cam avait dépouillé le jardin et réunit 2 grenades et 12 figues d'Inde. Tout ceci, joint au lapin heureusement mis à mort pendant que Jadin faisait le portrait de Salvatore, présentait tant bien que mal l'apparence d'un dîner. Il ne restait plus qu'à l'apprêter. Ne trouvant pas de casserole et forcé d'employer de l'huile rance au lieu de beurre, nous arrêtâmes que notre menu se composerait d'un potage à la poule, d'un rôti de gibier, de 3 œufs à la coque en entremets, et de nos grenades flanquées de nos figues d'Inde en dessert. Les châtaignes, cuites sous la cendre, devaient remplacer le pain. Tout cela n'eût rien été, absolument rien, sans l'odieuse saleté du bouge où nous nous trouvions. À peine nous étions-nous mis à l'œuvre, que 2 enfants couverts de haillons, maigres, hâves et fiévreux, étaient sortis comme des gnomes, je ne sais d'où, et étaient venus s'accroupir de chaque côté de la cheminée, suivant avec des yeux avides nos maigres provisions dans toutes les transformations qu'elles éprouvaient. Nous avions voulu les chasser d'abord de leur poste, afin de n'avoir pas sous les yeux ce dégoûtant tableau, mais la harangue que je leur avais faite et le coup de pied dont à mon grand regret l'avait accompagné Cam n'avait produit qu'un grognement sourd assez semblable à celui d'un marcassin qu'on veut tirer de son trou. Je m'étais alors retourné vers Salvatore en lui demandant ce qu'il avait et ce qu'il voulait, et Salvatore m'avait répondu en jetant sur eux un regard d'indicible pitié, ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent, ils ont faim et voudraient manger. Hélas, c'est le cri du peuple sicilien, et je n'ai pas entendu autre chose pendant 3 mois que j'ai habité la Sicile. Il y a des malheureux dont la faim n'a jamais été apaisée depuis le jour où, couchés dans leur berceau, ils ont commencé de sucer le sein taré de leur mère, jusqu'au jour où, étendus sur leur lit de mort, ils ont expiré, essayant d'avaler l'hostie sainte que le prêtre venait de poser sur leurs lèvres. Dès lors, on comprend que ces 2 pauvres enfants eurent droit à la meilleure part de notre dîner. Nous restâmes sur notre faim, mais au moins ils furent rassasiés. Quelle horrible chose de penser qu'il y a des misérables pour lesquels avoir mangé une fois sera un souvenir de toute la vie. Le dîner terminé, nous nous occupâmes de notre gîte. Salvatore nous découvrit une espèce de chambre au rez-de-chaussée, sur la terre de laquelle étaient jetés dans les 2 auges 2 paillasses sans drap. C'étaient nos lits. Cela, joint aux insectes qui couvraient déjà le bas de nos pantalons et qui couraient impunément le long des murs, ne nous promettait pas un sommeil bien profond. Aussi résolûmes-nous d'en essayer le plus tard possible et allâmes-nous, nos fusils sur l'épaule, faire une promenade par la campagne. Rien n'était doux, calme et tranquille comme cette solitude. C'était le silence et la poésie du désert. L'air brûlant de la journée avait fait place à une petite brise nocturne qui apportait un reste de saveur marine pleine de voluptueuse fraîcheur. Le ciel était un vaste dais de saphir tout étoilé d'or. Des météores immenses traversaient l'espace sans bruit, tantôt sous l'aspect d'une flèche qui file vers son but, tantôt pareil à des globes de flammes descendant du ciel sur la terre. De temps en temps, une cigale attardée commençait un chant tout à coup interrompu et tout à coup repris. Enfin, les lucioles scintillaient, étoiles vivantes, pareilles à des étincelles éphémères que font naître les caprices des enfants en frappant sur un foyer à demi éteint. C'eût été fort doux de passer la nuit ainsi. Mais nous avions le lendemain une quarantaine de milles à faire. Mais nous avions fait 25 milles dans la journée. Mais là, enfin, comme toujours, comme partout, quand l'âme disait oui, le corps disait non. Nous restâmes vers les 10 heures et nous nous jetâmes tout habillés sur nos lits. D'abord, la fatigue l'emporta sur toute autre chose, et je m'endormis. Mais au bout d'une heure, je me réveille, transpercé d'un million d'épingles, autant aurait valu essayer de dormir dans une ruche d'abeilles. Je me remuais, je changeais de place, je me tournais, je me retournais. Impossible de me rendormir. Quant à Jadin, soit sa fatigue plus grande, soit sensibilité moins exaltée, il dormait comme Épiménide. Je me souvins alors de ce hangar plein de paille où j'avais été déniché des œufs, et il me parut un lieu de délice comparé à l'enfer où je me trouvais. En conséquence, comme rien ne s'opposait à ce que j'en usasse à mon plaisir, je pris mon fusil couché à côté de moi sur mon matelas, j'ouvris doucement la fenêtre, je sautai dehors, et j'allais m'étendre sur cette paille tant désirée. J'y étais depuis 10 minutes à peu près, et je commençais à entrer dans cet état qui n'est plus la veille, mais qui n'est pas encore le sommeil, lorsqu'il me sembla que j'entendis parler à quelques pas de moi. Quelques instants encore je doutais, et par conséquent j'essayais de m'enfoncer davantage dans mon assoupissement. Lorsque le bruit devint si distinct que j'ouvris les yeux tout grands, et qu'à la lueur des étoiles je vis 3 hommes arrêtés à l'angle de la maison. Mon premier mouvement fut de m'assurer si mon fusil était toujours près de moi. Je le sentis à la place où je l'avais posé, et plus tranquille, je reportai les yeux sur mes 3 individus. Comme j'étais caché dans l'ombre que projetait le toit du hangar, ils ne pouvaient m'apercevoir, tandis que moi, au contraire, à mesure que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, je les distinguais parfaitement. Ils étaient enveloppés de longs manteaux. L'un d'eux avait un fusil, les 2 autres étaient seulement armés de bâtons. Au bout de quelques minutes, pendant lesquelles ils restèrent immobiles en parlant à voix basse, celui des 3 qui avait le fusil s'approcha de la fenêtre par laquelle j'étais sorti, entr'ouvrit le contrevent et passa sa tête avec précaution, de manière à regarder dans la chambre. Comme nous avions laissé brûler une lampe sur la cheminée, il pouvait voir un de nos 2 matelas occupés et l'autre vide. Sans doute cette circonstance le préoccupa, car il revint aussitôt à ses 2 compagnons et leur parla vivement. Tous 3 alors s'approchèrent. Je crus que le moment était venu. Je me levai sur un genou et j'armai les 2 chiens de mon fusil. Comme les intentions des 3 drôles qui entrent par la fenêtre à minuit ne peuvent être douteuses, ma résolution était bien arrêtée. Au premier acte d'effraction qu'ils tentaient, je faisais coup double. Et si le 3e ne s'enfuyait pas, Jadin, éveillé par le bruit, avait sa carabine. En ce moment, la fenêtre du grenier s'ouvrit et je vis passer la tête de Salvatore. À cette apparition, je l'avoue, je crus que notre guide en revenait à son ancien métier et que nous allions avoir affaire à 4 bandits au lieu d'avoir affaire à 3 seulement. Mais, avant que ce doute eut le temps de se changer en certitude, j'entendis une voix qui demandait impérieusement en sicilien « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ?»« Salvatore ». Dirent à la fois les 3 hommes. « Oui, Salvatore, attendez-moi, je descends. » 10 secondes après, la porte s'ouvrit et Salvatore parut. Il marcha droit aux 3 hommes et entama avec eux une conversation qui, pour avoir lieu à voix basse, ne m'en parut pas moins vive. Pendant 10 minutes, ils semblèrent disputer, eux parlant avec insistance, lui répondant avec fermeté. Bientôt, les 3 hommes reculèrent de quelques pas, comme pour tenir conseil entre eux. Salvatore resta où il était, les bras croisés et le regard fixé sur eux. Enfin, celui qui avait un fusil se détacha du groupe, revint à Salvatore, lui donna une poignée de main et, rejoignant ses camarades, s'éloigna avec eux. Au bout de 5 minutes, ils étaient perdus tous 3 dans l'obscurité et je n'entendais plus que le bruit de leurs pas sur les herbes sèches. Salvatore resta encore 1 quart d'heure à peu près à la même place, dans la même attitude. Puis, certain que les visiteurs nocturnes s'étaient retirés réellement, il rentra à son tour et referma la porte derrière lui. On comprend que la scène dont je venais d'être témoin m'avait ôté, du moins pour le moment, toute envie de dormir. Je restai une demi-heure immobile, comme comme une statue, dans l'attitude où j'étais, et le doigt sur la gâchette de mon fusil. Puis, au bout d'une demi-heure, comme rien ne reparaissait, et comme je n'entendais plus aucun bruit, je pris une position un peu moins incommode. Une autre demi-heure s'était à peine écoulée que, telle la puissance étrange du sommeil, je m'étais déjà rendormi. Le froid du matin me réveilla. Si belle que doit être la journée, il tombe toujours en Sicile, quelques minutes avant que le soleil se lève, une rosée fine, pénétrante et glacée. Heureusement, le toit sous lequel je m'étais mis à couvert m'en avait garanti. Mais je n'en ressentais pas moins ce malaise matinal, bien connu de tous les voyageurs. J'allais rentrer dans la chambre comme j'en étais sorti, lorsque je vis Jadin ouvrir la fenêtre. Il venait de se réveiller, et ne me voyant pas sur mon matelas, il avait conçu quelque inquiétude de ce que j'étais devenu et me cherchait. Je lui racontais ce qui s'était passé. Il n'avait rien entendu. Cela faisait honneur à son sommeil, car non seulement il n'avait pas été plus ménagé que moi par les insectes, mais encore, moi absent, il avait dû payer pour nous deux. C'est au reste ce que prouvait la simple inspection de sa personne. Il était tatoué des pieds à la tête comme un sauvage de la Nouvelle-Zélande. Nous appelâmes Salvatore, qui nous répondit de l'écurie où il apprêtait ses mules. Puis, attendu, comme on le pense bien, qu'il n'était pas question de déjeuner, et qu'il n'y avait sur notre route que la seule ville de Corleone, je crois, où nous comptions faire un repas quelconque, nous fîmes provision de châtaignes, afin d'amuser notre appétit tout le long de la route. Quant à la carte à payer, à notre grand étonnement, elle se trouvait, je ne sais comment, montée à 3 piastres. Nous les donnâmes, mais en recommandant à Salvatore de ne les remettre qu'à titre d'aumône. Nous nous mîmes en route dans le même ordre que la veille, si ce n'est que je marchais d'abord à pied pour 2 raisons. La première, c'est que je désirais me réchauffer. Et la seconde, c'est que je n'étais pas fâché de causer avec Salvatore de ce qui s'était passé dans la nuit. Au premier mot qui m'en échappa, il se mit à rire. Puis, voyant que j'avais assisté à ce petit drame, depuis le lever de la toile jusqu'au baisser du rideau, « Ah oui, oui, » me dit-il, « ce sont d'anciens camarades qui travaillent la nuit au lieu de travailler le jour. Si vous aviez pris un autre guide que moi, il est probable qu'il y aurait eu quelque chose entre vous, et que, d'après ce que vous me dites, cela se serait mal passé pour eux. Mais vous avez vu que, quoi qu'ils se soient fait un peu tirer l'oreille, ils n'en ont pas moins fini par nous laisser le champ de bataille. Maintenant, nous n'entendrons plus parler de rien avant le passage du Mezzagiuso. » Et au passage du Mezzagiuso, demandai-je, « Ah, là, il faudra le voir. N'avez-vous point sur ceux que nous rencontrons la même influence que vous avez eue sur ceux que nous avons déjà rencontrés ?»« Dame, » répondit Salvatore, et avec un geste sicilien qui en rien ne peut rendre, « c'est une nouvelle troupe qui vient de se former. Et vous ne les connaissez pas beaucoup ?»« Non, mais ils me connaissent. » Nous étions arrivés au bord d'un torrent qui, après avoir fait tourner une espèce de moulin qu'on appelle le moulin de l'olive, coulait d'un mouvement assez doux, et qu'il fallait bien entendu, comme notre fleuve de la veille, dont il était peut-être la source, traverser à gué. Je remontais donc sur ma mule. Salvatore me demanda la permission de sauter en croupe, ce que je lui accordai, et nous tentâmes le passage, qui s'opéra à notre satisfaction, quoique, malgré nos précautions, nous ne puissions nous empêcher d'être mouillés jusqu'aux genoux. Jadin vint ensuite et gagna, comme nous, le bord sans accident. Mais il n'en fut pas de même du pauvre Kama, qui était évidemment destiné à nous servir de bouc émissaire. À peine son mulet fut-il arrivé au milieu du torrent que, mal dirigé par son conducteur, il dévia de quelques pieds et s'enfonça dans un trou. Au cri que jeta Kama, nous nous retournâmes et nous l'aperçûmes dans l'eau jusqu'à la ceinture, tandis que nous ne voyions plus que la tête du mulet. La figure que faisait ce malheureux était si grotesque. Il était, dans tous les événements funestes qui lui arrivaient, si profondément comique, que nous ne pûmes nous empêcher d'éclater de rire. Cette hilarité intempestive réagit sur Kama, qui voulut faire reprendre à son mulet la route qu'il avait perdue. Mais, dans les efforts que l'animal fit lui-même, il rencontra une pierre et buta. La violence du coup fit rompre la sangle. Et nous vîmes immédiatement Cam et notre bagage s'en aller au fil de l'eau. Si utile que nous fût le premier, et si nécessaire que nous fût le second, Nous courûmes à notre cuisinier, tandis que Salvatore courait à notre bagage. Au bout de 5 minutes, hommes et robes étaient hors de l'eau, mais tellement mouillés, tellement ruisselants, qu'il n'y avait pas moyen de continuer la route sans faire sécher le tout. Nous allumâmes un grand feu avec des herbes sèches et des oliviers morts. Nous-mêmes en avions besoin. L'air du matin nous avait glacés et nous nous réchauffâmes avec un indicible plaisir à un de ces feux libres et gigantesques, comme on allume les bûcherons dans les forêts et les pâtres dans les montagnes. En outre, nous fîmes rôtir chacun une douzaine de châtaignes. Ce fut notre déjeuner. Pendant que nous faisions cette halte obligée, nous vîmes paraître une litière portée sur 2 mules, menée par un conducteur et accompagnée de 4 campieri. Il renfermait un digne prélat, gros, gras et frais, qui, plus prudent que nous, m'eut tout l'air, au regard de mépris qu'il jeta sur notre collation, de porter ses provisions avec lui. Les 4 campieri, armés de fusils et enveloppés de manteaux, donnaient à sa marche un aspect assez pittoresque. Malgré la difficulté du passage où nous avions échoué, grâce à l'adresse de notre conducteur, il traversa la petite rivière sans accident. Au bout d'une heure à peu près, nous levâmes le camp. Mais, quelque instance que nous fissions à cam, il ne voulut jamais remonter sur son mulet. Salvatore profita de ce refus pour s'y installer à sa place. Nous nous remîmes en route, cam nous suivant à pied. Les plaines que nous traversions, si toutefois des terrains si bouleversés peuvent s'appeler des plaines, offraient toujours un aspect des plus grandioses. Chaque fois que nous arrivions au sommet de quelque monticule, nous apercevions de ces lointains immenses et fantastiques comme on en voit en rêve, et si bizarrement colorés par le soleil qu'ils semblaient mener à quelques-uns de ces pays féeriques que les pas de l'homme ne peuvent atteindre. De temps en temps, nous apercevions dans la plaine, où il se recourbait comme un serpent de verdure, quelques ruisseaux desséchés par la canicule, dont un long ruban de laurier rose, protégé par un reste de fraîcheur, marquait toutes les sinuosités. Puis, ça et là, une de ces petites îles verdoyantes que nous avons déjà écrites, s'élevant sur ce désert d'herbes rougeâtres, au milieu desquelles chantaient désespérément des millions de cigales. Après 6 ou 8 heures de marche sous un soleil tellement ardent que le cuir de nos bottes nous brûlait les pieds, nous aperçûmes la ville où nous devions dîner. C'était 2 ou 3 rangées de maisons, n'ayant que des rez-de-chaussée, bâties à des distances égales les unes des autres, et qui de loin ressemblaient à s'y méprendre à des joujoux d'enfants. En descendant à la porte de la principale auberge, nous remarquâmes avec plaisir qu'elle contenait quelques instruments de cuisine qui ne paraissaient pas trop abandonnés. Mais Salvatore vint calmer la joie que nous causait cette vue en nous invitant à en faire le plus prompt usage qu'il nous serait possible. Attendu qu'ayant perdu 1 heure à nous réchauffer le matin, il fallait rattraper 7 heures sur notre dîner, afin de ne point arriver trop tard au rocher de Mezzagiuso. Si affamés que nous fussions, nous comprîmes l'importance de la vie et nous pressâmes notre hôte le plus qu'il nous fut possible. Cela n'empêcha point que nous ne perdissions 2 heures à faire un exécrable dîner. Un chat, porté sur notre carte au compte de 1000 or, nous prouva qu'il avait été plus heureux que nous. Nous nous remîmes en route vers les 5 heures. Comme le défilé qu'il nous fallait franchir n'était guère éloigné que de 6 milles de Corleone, où nous avions dîné, nous commençâmes à l'apercevoir vers 6 heures 15. C'était tout bonnement un passage entre 2 montagnes, l'une coupée à pic, l'autre s'inclinant par une pente assez rapide, toute couverte de rocs qui avaient roulé du sommet et s'étaient arrêtés à différentes distances. Nous devions y être arrivés vers 7 heures, c'est-à-dire en plein jour encore. Salvatore nous montra ce passage du bout de son bâton, puis, nous regardant comme pour voir l'effet que ce qu'il allait nous annoncer produirait sur nous, « S'il y a quelque chose à craindre, dit-il, ce sera là. » « Hâtons donc le pas, répondis-je, car s'il y a vraiment quelque danger, mieux vaut l'aller chercher au grand jour que d'attendre qu'il vienne nous surprendre pendant la nuit. »« Allons, » dit Salvatore. En appuyant la main sur le pommeau de ma selle, il excita de la voix nos mules qui prirent le trot. Nous approchâmes rapidement. Cam, pour ne point nous retarder, avait repris sa place au milieu du bagage et nous suivait, cramponné aux cordes qui le liaient. Il avait entendu quelques mots des craintes émises par Salvatore et avait paru fort inquiet. Je lui avais alors offert, comme Jadin avait une carabine et moi un fusil à deux coups, de prendre les pistolets, afin de nous donner un coup de main si l'occasion se présentait. Mais cette offre avait failli le faire tomber de frayeur du haut de sa mule. Jadin les avait donc gardés dans ses fontes. À 300 pas du passage à peu près, Salvatore arrêta ma mule. Comme c'était elle qui tenait la tête du cortège, les deux autres suivirent immédiatement son exemple. Puis, nous disant de demeurer à l'endroit où nous étions, attendu qu'il venait d'apercevoir le bout d'un fusil derrière un rocher, Salvatore nous quitta et marcha droit vers le point indiqué. Nous profitâmes de cette petite halte pour voir si nos armes étaient en état. J'avais, dans chaque canon de mon fusil, deux balles mariées, et Jadin en avait autant dans celui de sa carabine et dans ceux de ses pistolets. Comme les pistolets étaient doubles, cela nous faisait 7 coups à tirer, sans compter que nos fusils, étant un système, pouvaient se recharger assez promptement pour qu'en cas de besoin, une seconde décharge succédât presque immédiatement à la première. Nous suivions Salvatore des yeux avec une attention que l'on comprendra facilement. Il s'avançait d'un pas ferme et rapide, sans montrer aucune hésitation. Bientôt nous vîmes poindre un homme à l'angle d'une pierre. Salvatore l'aborda et tous deux, après quelques paroles échangées, disparurent derrière le rocher. Au bout de 10 minutes, Salvatore reparut seul et revint vers nous. Nous cherchâmes de loin à lire sur son visage quelles nouvelles il nous apportait. Mais c'était chose impossible. Enfin, lorsqu'il fut à quelques pas de nous, « Eh bien, lui dis-je, qu'y a-t-il ? Il y a que, comme je l'ai prévu, ils ne veulent pas nous laisser passer. Comment ils ne veulent pas nous laisser passer ? C'est-à-dire, à moins que vous ne payiez le passage. Et sont-ils bien exigeants ? Oh non, à ma considération, ils n'exigent que 5 piastres. « Ah, dit Jadin en riant, à la bonne heure, voilà d'agents raisonnables. Et j'aime presque mieux avoir affaire à eux qu'aux aubergistes. Et combien sont-ils, demandai-je, pour avoir la prétention de nous mettre ainsi à contribution ? Ils sont 2. Comment ? 2 en tout. Oui, les autres sont sur la route d'Armandia à Polizzi. Que dites-vous de cela, Jadin ? Eh bien, je dis que, puisqu'ils ne sont que 2 et que nous sommes 4, c'est à nous de leur faire donner 5 piastres. Mon cher Salvatore, repris-je alors, faites-moi le plaisir de retourner vers ces messieurs et de leur dire que nous les invitons à se tenir tranquilles. Ou sinon, continua Jadin, que je l'ai fait manger parmi l'or, n'est-ce pas le chien ? Veux-tu manger un voleur, le chien, hein ? Milord fit 2 ou 3 bons forts joyeux en signe de parfait consentement. C'est votre dernier mot, dit Salvatore. Le dernier. Eh bien, vous avez raison. Seulement, mettez pied à terre et marchez de l'autre côté des mules, afin que si, dans un moment de mauvaise humeur, il leur prenait l'envie de vous envoyer un coup de fusil, vous leur présentiez le moins de prise possible. Le conseiller était bon, nous le suivîmes aussitôt. Quant à Salvatore, soit qu'il pensa n'avoir rien à craindre, soit qu'il méprisa le danger, il marcha en sifflant, 4 pas en avant de la première mule, tandis que nous étions chacun derrière la nôtre et entièrement abrités par elle. Nous vîmes poindre le chapeau pointu de nos bandits au-dessus du rocher. Nous vîmes s'abaisser les 2 canons de fusil dans notre direction, mais quoique à l'endroit où la route était la plus rapprochée du lieu où ils étaient embusqués, il n'y eut guère plus de 60 pas d'eux à nous, toute leur hostilité se borna à cette démonstration, peut-être aussi défensive qu'offensive. Au bout de 10 minutes, nous étions hors de portée. « Eh bien, Cam, dis-je, en me retournant vers notre malheureux cuisinier qui, pâle comme la mort, marmottait ses prières en baisant une image de la Madone qu'il portait au cou. Que penses-tu maintenant des voyages par terre ?»« Ah, monsieur, oh monsieur !» s'écria Cam. « J'aime encore mieux la mer, parole d'honneur. »« Tenez, dis-je à Salvatore, vous êtes un brave homme. Voici les 5 piastres pour boire à notre santé. » Salvatore nous baisa les mains et nous remontâmes sur nos mules. 1 heure après, nous étions arrivés sans autre accident à l'auberge de San Lorenzo, où nous devions coucher. Nous y trouvâmes un souper et un lit détestables, pour lesquels on nous demanda le lendemain 4 piastres. Décidément, Jadin avait raison. Les véritables voleurs, ceux surtout auxquels il n'y avait pas moyen d'échapper, c'étaient les aubergistes.